Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 19h30, RTL dimanche soir.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Philippe Robuchon.
Il parle de l'actualité tous les jours en direct sur France 2 et c'est souvent beaucoup plus drôle qu'aux 20h. Bonsoir Thomas Touroud.
Bonsoir.
Actualité du lundi au vendredi 17h40, c'est plus drôle mais c'est aussi plus fragile. Il y a quelques semaines, on disait que vous n'alliez pas passer Noël, audience trop faible. Ouais. Bah, il faut croire que ça va mieux puisque vous serez toujours là en janvier. Avez-vous définitivement sauvé votre tête? Vous nous direz ça dans un instant.
Très bien.
Bonsoir Julien Bellevert.
Pure Salut Média. Philippe.
Dans un petit quart d'heure, le débat des dessous de l'écran sur quoi?
Les tops et les flops de la télé en 2016 avec Benoît d'Aragon du Parisien et Laurent Martic de RTL.
D'abord, l'actu média de la semaine. Une petite phrase du PDG d'Orange a agité le landerneau médiatique ces derniers jours. Stéphane Richard a déclaré « Si Canal+ était à vendre, c'est certain qu'Orange s'y intéresserait ». Terminer la publicité dans les programmes pour enfants sur le service public. La mesure prendra effet en janvier 2018. Encore une chaîne d'infos sous tension. 70% des journalistes d'Euronews ont voté une motion de défiance contre leur direction. Appel à la grève à France Info jeudi prochain. Les syndicats veulent plus de transparence sur l'avenir de la chaîne d'infos publique. France Télévisions rendra hommage demain à Rémi Pfimelin, l'ancien PDG décédé la semaine dernière à 62 ans. L'ensemble du personnel et les anciens collaborateurs ont prévu de se retrouver en début d'après-midi au siège du groupe à Paris. Enfin, Paris Première, la chaîne du groupe M6 fêtera demain soir ses 30 ans lors d'une émission spéciale. 30 ans, résumé en 1 minute 30 par Laurent Marsic.
C'était le 15 décembre 1986 à 19h sur le canal 8 du réseau câblé Paris Câble.
La télé qui a l'esprit plus large que le petit écran.
Paris Première venait de naître.
Paris Première, la première chaîne des Parisiens.
Il faudra attendre 1991 et son arrivée sur le câble au-delà de Paris pour voir apparaître une première vraie grille des programmes.
Bonjour Elisabeth.
Bonjour ô moitié cathodique.
Avec un mot d'ordre, la culture, toutes les cultures. C'est Première Loge.
Je suis dans la Première Loge de Valérie Lemercier.
Paris Mode ou encore le club de Jean Edernalier.
Voilà un bocal, voilà le livre de Mitterrand. Nous allons le noyer dans l'eau de son régime, l'eau de Vichy.
1995, Paul Amar, fraîchement débarqué du JT de France 2, arrive avec
20h Première.
Puis Ardisson.
Chers amis, chers ennemis, voici rive droite, rive gauche.
Puis il y aura 93, Faubourg Saint-Honoré et des dîners entre amis, filmés par des automates.
C'est les inconnus.
Au quatrième étage, messieurs.
Merci.
On pourrait encore citer Ariane Massenet.
Bienvenue dans Petite Confidence entre amis.
L'impertinence avec les Gérards de la télévision, l'antithèse des 7 d'or de la télé.
Voici le Gérard du chanteur qui fait l'acteur, ou le contraire, en tout cas dans un cas comme dans l'autre, il le fait mal.
Et le lieu de tous les débats, Zemmour, Nolo.
Comme Chirac depuis 30 ans.
Ça c'est la meilleure.
Bah, écoute ça, je connais mieux que toi, tu m'excuses.
Les médias avec Philippe Vandel et sa bande de chroniqueurs.
Pif paf, pouf.
2014 puis 2015, Paris Première à bon espoir de basculer sur la TNT gratuite comme LCI, mais refus du CSA par deux fois. Elle aurait aimé dire, comme Pierre Lescure dans Lescure tôt ou tard en 2010.
Tôt ou tard, vous regarderez tous Paris Première.
Voilà, 30 ans condensés en 1 minute 30, performance signée Laurent Marsic. Bon anniversaire à Paris Première.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Philippe Robuchon.
Thomas Touroud, ce générique, le générique d'actualité, tous les jours 17h40, France 2, les gens commencent à le connaître, à le reconnaître.
Ouais.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un miraculé?
Alors, je ne sais pas si je suis un miraculé. En tout cas, je pense qu'on a gagné le premier défi. On n'a pas gagné encore la guerre, on a gagné une bataille, on va dire. Parce que la bataille de cette case-là est immensément difficile. Et plus l'année va avancer, plus la saison va avancer, et plus, j'espère, on va avoir des éclaircies.
En nombre de téléspectateurs, donc, vous êtes autour de 500-600 000 aujourd'hui?
Oui, c'est ça. En moyenne, on est à 500-600 000. On finit l'émission parfois à 900-950 000 téléspectateurs en partant de très bas. Donc, la courbe est bonne. Ça commence à devenir un rendez-vous, je pense, pour les téléspectateurs. Donc les gens commencent à nous accepter dans leur salon et c'est une première partie du défi, pour le coup, qui est gagnée.
Alors Thomas, cette case, évidemment, c'est une case très difficile sur France 2 depuis très longtemps.
Ouais.
Donc vous démarrez autour de 18h tous les soirs sur France Télé.
Bah, pas autour de 18h, hein.
17h40.
17h40, c'est très tôt, hein. C'est important.
Et vous êtes
précédé
par Amanda, qui est aussi une nouvelle émission sur France Télévisions, qui ne marche pas très bien. Donc dans le jargon, on appelle ça un mauvais lead-in. Est-ce que vous en voulez à Amanda? Parce que quand vous prenez l'émission, il y a pratiquement personne devant la télévision.
Alors moi j'en veux surtout pas à Amanda, j'en veux à personne. Je pense, et nous pensons toute l'équipe, d'abord et avant toute chose, à proposer la meilleure émission. Je pense que si on propose une bonne émission, le rendez-vous va se créer et les gens seront à l'heure au rendez-vous devant leur télé.
Et puis une forme de solidarité entre les émissions dont les audiences sont pas au rendez-vous, on se serre les coudes.
Ah bah, il faut de toute façon. Enfin moi j'ai plutôt l'esprit d'équipe, donc j'aurai, j'espère, le plus longtemps possible.
Est-ce que la remontée de l'audience d'Actuality correspond à l'arrivée dans l'équipe de Roselyne Bachelot?
En partie, c'est vrai que l'arrivée de Roselyne Bachelot nous a fait beaucoup de bien d'un point de vue de l'audience, mais aussi sur la couleur de l'émission. Roselyne, elle a, je pense que ça va devenir vraiment une star des médias dans les années à venir, mais je le pense sincèrement. Enfin, moi, je la trouve excellente.
Quoi. Thomas, il fallait absolument une tête connue à vos côtés. Voilà, ouais. Thomas Tourou, le grand public ne connaît pas forcément.
Ouais, bien sûr.
Roselyne Bachelot, évidemment, hyper populaire.
Ouais.
C'était aussi l'objectif de la faire venir
pour
rendre l'émission plus visible.
En partie, c'est sûr. Nous, on avait l'intention de faire du décryptage d'actu sur la première version d'Actuality avec des grandes signatures, notamment de la presse écrite. Je rappelle quand même que Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui ont écrit le livre Un président ne devrait pas dire ça, le livre de confidence et d'entretien avec François Hollande, font partie de notre équipe. Ce sont des grandes signatures, ce sont des gens qui sont extrêmement compétents dans leur domaine, mais qui effectivement ne sont pas connus du grand public. Donc, avoir quelqu'un avec de la notoriété comme Roselyne Bachelot, c'était extrêmement important.
Alors, vous vous êtes pris quelques missiles quand même depuis la rentrée. D'ailleurs, c'est une coïncidence.
Est-ce que vous avez vu l'épaisseur du cuir là,
voilà, vous êtes assez bien protégé. On va les écouter parce qu'ils étaient tous les deux sur RTL. Écoutez le premier.
Il ne suffit pas d'asseoir des gens autour d'une table ou des gens sur des canapés pour faire une émission de télévision. C'est-à-dire que moi, j'avais dit à Vincent Mellé...
Qui a mis en place ces émissions.
En place ces émissions. Mmh. Je lui avais dit, mais en parlant d'Actuality, justement, l'émission de Tourou, je lui ai dit, mais comment veux-tu que ça marche? Je lui ai dit, le mec n'est pas connu et il n'y a pas de concept.
Et vous pensez que c'était perdu d'avance?
Ah, mais tout à fait.
Voilà, on l'a reconnu, Thierry Ardisson, c'était avec Jacques et Éric Dussard. ça ne marchera jamais.
En tout cas, on sera toujours là en janvier. se battre pour être là le plus longtemps possible. Non, alors, ce qu'il y a de bien quand même avec Thierry Ardisson, c'est que moi, je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours. Il vous dit, enfin, c'est exactement ce qu'il peut dire sur les plateaux ou à la radio ou devant les micros. Donc, et puis sur la question de la notoriété, pour le coup, on ne peut pas lui donner tort. C'est vrai, il faut accepter que... Bon, moi, j'ai été à Canal pendant de nombreuses années, mais le très grand public ne me connaissait pas. Donc, sur ce point-là, en tout cas, je ne peux pas lui donner tort.
Alors ça, c'était le premier missile. Ouais. Il y en a eu d'autres, mais un peu en forme d'encouragement. Écoutez.
J'ai toujours eu un peu de mal avec l'animateur, que je trouve très bon journaliste, que je trouve très bon journaliste sportif, et que j'ai un peu de mal en animateur. Plus il fait d'émissions, moins il joue à l'animateur, il s'améliore.
Vous avez reconnu ?
Alors, je crois que c'est Monsieur Louvain.
C'est voilà. Ça.
Gérard Louvain, grand producteur télé. Ouais. Il trouve que peut-être vous n'êtes pas à la bonne place, trop journaliste, pas assez animateur. En tout cas, vous vous améliorez.
Mais j'apprends aussi. Moi, je n'ai pas une carrière immense. Je n'ai pas la carrière de Thierry Ardisson. Je n'ai pas la carrière de Gérard Louvain. Et je prends effectivement ça plutôt comme un encouragement. Vous avez utilisé ce mot. C'est vrai que j'ai encore une marge de progression. Et heureusement, quoi. J'espère atteindre un jour le niveau des plus grands, le niveau de Nagui, le niveau d'Ardisson, le niveau de Drucker, le niveau de Patrick Sébastien, de tous ces gens-là.
Vous n'êtes pas susceptible, hein, Thomas ?
Absolument pas.
Ouais, ça se voit.
Non, ça, c'est pas. Non. Ben non, parce que j'arrive à faire la part des choses. Là, on parle de mon métier et moi, je suis très heureux de le faire. J'ai la chance de faire un métier qui me passionne. Et certes, ce sont des missiles. Enfin bon, à un moment, il faut prendre un petit peu de recul. Ça va, quoi.
C'est la télé.
Oui, enfin, j'ai la chance de faire un métier. Ouais, c'est mon métier. J'ai quand même, je suis quand même rémunéré pour chaque jour apprendre des choses depuis que je suis sorti d'école de journalisme. Donc, j'ai moi la chance de faire un métier fantastique. Aujourd'hui, effectivement, mon métier évolue. C'est-à-dire que je suis plus seulement journaliste. J'ai un rôle d'animateur qui est en train de s'écrire et j'apprends à le faire au quotidien.
À part Ardisson, vous avez été relativement épargné, Thomas, depuis le lancement de Actuality.
Ouais.
L'émission n'a pas été tellement critiquée sur le fond. Vrai. Pour les audiences, oui. Ouais. Alors qu'on se souvient quand Sophie Aram avait été à l'antenne dans cette case.
C'était plus dur pour elle.
Voilà, c'était beaucoup plus difficile. Comment vous expliquez que Thomas Tourou d'Actuality ait été épargné pendant toute cette période ?
Je pense qu'on a gagné la bataille de l'image dès les premières émissions. Dans Actuality, et c'est très important de le souligner, c'est une émission qui est attachée aux valeurs du service public. Rien n'est gratuit dans cette émission. C'est-à-dire que même quand on s'amuse, on apprend quelque chose. Toute la base de l'émission est assise sur l'actualité. C'est notre matière première. Et ensuite, on s'en amuse et ensuite, on se divertit. C'est d'ailleurs l'un des gros efforts qu'on a fait depuis l'arrivée de Caroline Gott. Elle nous a dit l'actualité, c'est très bien, mais il faut entrer par la porte du divertissement. Donc, allez chercher quelqu'un comme Roselyne Bachelot et mettez de la couleur, et mettez du sourire, et mettez du rire dans votre émission. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et force est de constater que c'est la bonne voie puisque ça monte.
On est obligé de se marrer à 18h sur France 2 rassembler une large audience.
Moi, je vais vous dire. Je pense qu'aujourd'hui, l'émission me ressemble plus, personnellement. Pour une raison très simple, moi, j'ai fait du journalisme depuis toujours. J'ai travaillé notamment à la matinale d'ITélé en infogéné. Et moi, en fait, je sais qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus forcément porter le costume d'un présentateur de JT de News. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin toujours de mettre une petite dose d'humour, un petit peu de décalage. C'est ce que j'ai fait notamment au sport longtemps à Canal, que j'ai pu faire aussi sur le Before du Grand Journal avec la pop culture. Et c'est ça qui me plaît. Et en fait, c'est ce qu'on est en train d'arriver à faire, de parvenir à faire dans l'actualité.
Vous avez dit, il n'y a que sur le service public qu'il peut y avoir une émission comme ça, mais on peut vous répondre. Il n'y a aussi que sur le service public qu'une émission peut durer aussi longtemps sans faire de l'audience.
C'est sûr, ça c'est une preuve de confiance extraordinaire. Aujourd'hui, quelle grande chaîne peut se targuer de laisser autant de place et autant de temps pour une émission pour qu'elle puisse en dire ? Non, mais c'est voilà, la chance qu'on a, elle est là, hein, c'est sûr. Hein.
Et votre sursis, Thomas, il est jusqu'à quand là aujourd'hui ? C'est au mois de mars, c'est ça ? Parce que là, vous serez là au mois de janvier.
On continue.
C'est sûr.
On continue. On n'a pas de deadline.
Ouais.
On continue. Après, moi, je connais le jeu. Je connaissais les règles du jeu en arrivant au début du mois de septembre. Si ça marche pas et qu'on dit c'est pas suffisant, on arrête. Eh ben, on arrêtera et pas de problème.
Grosse pression tous les jours, quoi.
Ouais. Mais cette pression-là, c'est ça en fait. C'est contre cette pression qu'il faut se battre, arriver à se détacher de ça. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir les conseils de Michel Drucker qui avait vécu des peurs difficiles. Lui aussi, quand il faisait Studio de Gabriel. Et pourtant, c'est Michel Drucker. Ma vie, t'occupe de rien, n'écoutez pas les critiques et avancez. C'est ce que j'ai essayé de faire et pour l'instant, ça marche.
Il a commencé journaliste sportif comme vous.
Ah, c'est juste.
On vous souhaite une aussi belle carrière.
Moi bien.
Alors, Thomas Touroud, on a appris cette semaine que vous alliez présenter les victoires de la musique en février prochain.
Tout à fait, avec Bruno Guillon.
Avec Bruno Guillon, l'ami Bruno de Fun.
Ouais.
Vous remplacez Virginie Guillaume.
On ne voit
pas trop la cohérence.
Je suis nettement moins beau. Pourtant.
Comment on vous a vendu la chose ?
Ah bon, on me l'a proposé, j'ai accepté. Voilà,
direct,
ça a été aussi ça. Oh ben non, moi, là, pour le coup, j'y vois une marque de confiance. Mais...
Oui, ça veut dire que France 2 mise sur vous, ça.
Bah, j'imagine. En plus, je crois que c'est un exercice qui n'est pas très simple à faire. D'ailleurs, je compte beaucoup sur Bruno pour m'aider. je suis super content
de
faire ça.
Vous connaissez un peu ?
Non, je ne le connais pas du tout. Enfin, moi, je le connais médiatiquement, comme on peut connaître les personnalités médiatiques. Mais,
n'allez pas vous ennuyer, je crois.
Bah, j'ai fait le Téléthon, là. Bah, pareil, c'était mon premier Téléthon. J'étais à Montauban avec Chloé Nabédien et Jean-Baptiste Marteau samedi. Et ils m'en ont parlé de Bruno. Ils m'ont dit que c'était un type extraordinaire et que quand on était avec lui, on faisait que se marrer. Donc, ce qui est très, très positif. Donc,
question perso, Thomas. Ouais. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ?
Oui.
Que disent les gens ?
Ah ben, j'ai de la chance parce que les gens sont sympas avec moi quand ils me croisent.
Mais vous êtes un visage France 2 ou Canal pour ces gens que vous croisez ?
Justement, c'est là que je vois que c'est en train de changer. C'est-à-dire qu'auparavant, on me reconnaissait effectivement parce que j'étais de Canal. Mais là, ça y est, les gens commencent à me reconnaître parce que je suis sur France 2.
Dernière question, ouais. Thomas. Dans le générique d'actualité, vous faites un petit geste un peu à la Jean Dujardin avec le sourcil.
Le lever de sourcil.
Le lever de sourcil.
Alors,
vous pouvez nous le faire à la radio parce que c'est encore plus impressionnant.
Attention, clac.
Voilà.
Ah, pas mal.
D'accord. Vous l'avez travaillé ?
Alors, bien sûr que je l'ai bossé. Alors, je fais beaucoup moins bien le chameau que Jean Dujardin, mais je fais beaucoup mieux le lever de sourcil que Jean Dujardin.
Bon, Thomas, merci d'être venu
au-dessous
de l'écran.
Merci de votre accueil, c'est
donc
super.
Actuality, 17h40, tous les jours sur France 2.
Merci beaucoup.
Dans un instant, les tops et les flops de l'année 2016 à la télé.
Jusqu'à 19h30, RTL dimanche soir.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Philippe Robuchon.
C'est un rituel, un marronnier, comme disent les journalistes. Chaque année avant Noël, on dresse les tops, les flops de l'année, les réussites, les échecs. Et comme on est dans une émission média, évidemment, on va parler des tops et des flops média 2016, en particulier à la télévision. Julien Belver est toujours là. Plus deux confrères qui sont venus avec leur petite liste. Benoît Daragon du Parisien, salut Benoît.
Salut.
Et Laurent Marsic, salut Laurent.
Bonjour.
De RTL. On fait comme au 7 d'or, comme au César. D'abord, selon vous, quel est l'animateur, ou l'animatrice de l'année 2016 ?
Je me lance, je pense qu'on va se moquer de moi. Mais pour moi, c'est l'animatrice de l'année, c'est Faustine Bollaert sur M6, qui a cartonné avec le meilleur pâtissier, une meilleure saison historique depuis le lancement. Je trouve que Faustine, elle a vraiment trouvé sa place sur M6, enfin, à tel point que M6, elle va la mettre à toutes les sauces au mois de...
Jeu de mots.
Au mois de Noël. Pendant une semaine, elle va animer 15 heures d'émission sur M6. Elle a présenté 2-3 formats. Voilà, c'est un peu la star montante d'M6, alors qu'elle est sur la chaîne depuis quelques années déjà.
Laurent ?
Alors on va rester sur M6. Karine Lemarchand, moi, pour son émission Ambition Intime, je trouve qu'elle s'était plutôt bien reconvertie. Voilà, même si elle continue évidemment à présenter L'Amour est dans le pré, dont on va avoir les portraits dans quelques jours, qui vont démarrer sur M6.
Benoît ?
Eh ben encore M6, oh décidément, non. C'est une thématique.
Enfin, ils se sont donné le mot.
Ouais, non, pas du tout. Moi, c'est David Ginola. Je trouve qu'il a fait une arrivée tambour battante à la télévision, grâce à l'Euro. C'est pendant l'Euro de foot qu'il est arrivé officiellement sur M6. Et puis après, ces dernières semaines dans Incroyable Talent, émission qu'il a dépoussiéré. Et c'est quand même assez étonnant de voir une arrivée tonitruante comme ça. Donc, visiblement, chapeau
M6.
C'est vrai
qu'il a trouvé sa place. Il y a une vraie empathie quand il est avec les candidats derrière le rideau.
Et là encore, il a beaucoup de projets avec la chaîne. Donc, on va le revoir beaucoup en 2017.
On va suivre ça de près. Alors, bide de l'année 2016, selon vous. Je ne parle pas des grands dossiers style Canal et télé. On va y
reviendra.
Les bides, les émissions dont on attendait beaucoup et qui ont fait plouf.
Bah pour moi, c'est OVNI. Vous savez, c'est la nouvelle émission de Bertrand Chamerois, deuxième partie de soirée sur W9. Voilà, W9 a beaucoup parié sur cet animateur. C'était leur star de la rentrée. La première émission a pas trop mal marché. Et on a vu qu'au fil des semaines, l'audience baissait. Cette semaine, 169 000 téléspectateurs, à peine 1,5% de part de marché en deuxième partie de soirée. C'est très faible. Comme quoi, c'est très difficile d'installer un talk.
Alors, c'est un bide, mais on va tout lui pardonner parce qu'il a beaucoup d'humour. Écoutez ce qu'il a dit après l'échec de la dernière émission.
Mes chers téléspectateurs, mardi, nous vous avons proposé une nouvelle formule d'OVNI. J'ai vu les chiffres, j'ai lu les commentaires, les réactions. Aussi, ce soir, j'ai décidé de renoncer à la formule de la semaine dernière.
Voilà, il a beaucoup
vive
d'humour.
Vive Médiamétrie, vive OVNI et vive la France.
Voilà, on n'oublie pas le vive la France. Il a beaucoup d'humour quand même, Bertrand Chamerois.
Ouais, ah, très bon imitateur.
Démonstration qu'on peut être un très bon chroniqueur et pas forcément réussir à mener toute une émission.
Alors, dans les échecs 2016, Laurent, vous en avez vu un autre.
Alors, c'est pas un bide, c'est plutôt un regret. Le 5 à 7 d'Arthur sur TF1. Parce que je trouve que ça aurait été bien qu'on puisse avoir un contrepoids, on va dire, à Cyril Hanouna, mais il est venu un petit peu plus tard.
Benoît ?
Bah, les après-midi de France 2, vous venez d'en parler avec Thomas Touroud, mais surtout les dimanches après-midi de France 2.
Échec de l'année.
Ouais. Échec, parce qu'ils ont enlevé Michel Drucker pour faire plus d'audience. Au NPC, le dimanche, ça marchote, mais enfin, c'est pas un carton.
On n'est pas couché.
Et on n'est pas couché, la rediff, exactement. Stade 2, c'est une catastrophe. Enfin, c'est vraiment compliqué aussi le dimanche après-midi de France 2, donc ce sera le petit hic de la rentrée aussi.
Qui est l'auteur, selon vous, du dérapage de l'année ?
Bah, il y a un collectionneur qui collectionne les dérapages, en tout cas. Depuis la rentrée, ça s'est accéléré, c'est Cyril Hanouna. Il y a un dérapage par mois. Il humilie ses chroniqueurs en direct. On est dans quelque chose qui est assez malsain en tant que téléspectateur, qui met très mal à l'aise. On pense à cette caméra cachée d'il y a quelques semaines où ce pauvre Mathieu Delormeau était au bord des larmes, pensant que Cyril avait tué quelqu'un et qu'il allait lui faire porter le chapeau. C'était vraiment très très gênant.
Le problème, c'est que est-ce que c'est le mot dérapage qui convient avec Cyril Hanouna? Parce qu'il le fait exprès. Toi,
ouais,
c'est
voulu.
Ouais, c'est pour rire.
Vous avez raison, Philippe. C'est vraiment devenu un ressort de l'émission parce que ça alimente le buzz sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que cherche Cyril Hanouna. En gros, tout ce que dit le CSA, parce que le CSA s'en est mêlé ces dernières semaines, clairement, il s'en fiche, Cyril Hanouna. Tant que ça fait parler de l'émission, pour lui, voilà, c'est un excellent instrument de promotion.
La honte de l'année 2016.
Ben pour moi, c'est Vincent Bolloré et l'ensemble de son œuvre, parce que franchement, l'année a été marquée par beaucoup, beaucoup d'échecs autour de Canal+. Évidemment, le flop du Clair qui a été relancé. Plus personne ne parle du grand journal, du gros journal, du petit journal. Évidemment, la crise à iTélé, on y reviendra, mais une rédaction décimée, 80 journalistes sont partis, peut-être plus d'ici la fin de l'année. Et surtout, la relance de Canal+. On en avait parlé il y a quelques semaines dans les dessous de l'écran, avec les nouvelles offres. Canal a perdu à peu près 500 000 abonnés et ça va être très compliqué pour eux de recruter de nouveaux abonnés en 2017. Surtout qu'on a appris cette semaine que Canal+ avait encore perdu des droits, non pas des droits sportifs, mais les droits avec Discovery et NBC Universal. C'était Canal+ qui les avait. Et mi-2017, ce sera SFR qui va récupérer toutes ces chaînes.
Benoît ?
Bah Jean-Marc Morandini, on reste un peu dans le même thème, qui arrivait. Oui, parce qu'il arrivait à iTélé et on a vu quoi, 4 numéros qui étaient honnêtement indiffusables, des émissions qui étaient assez lamentables. Et donc ça valait pas le coup de provoquer un mois de grève pour imposer un animateur qui fait une émission qui a aussi peu d'intérêt que celle qu'on a vue à l'antenne.
Et qui ne s'est pas appliqué à lui-même ce qu'il aurait probablement dénoncé sur son blog ou à l'antenne si un politique mis en examen pour corruption de mineurs aggravés était resté à son poste.
Pas faux, Laurent. Journaliste de l'année, allez, 2016.
Pour moi, deux femmes, j'ai eu du mal à départager Ruth Elkrieff et Elisabeth Martichoux.
Ah,
voilà, Elisabeth Martichoux, journaliste maison de RTL, évidemment, qui se sont nettement démarquées pendant les débats, vous savez, sur les primaires à droite. Franchement, à côté des journalistes historiques, des David Pujadas et des Gilles Boulot, elles ont fait mieux le boulot, justement, et c'était très réussi. Donc, bravo spécifiquement à Elisabeth Martichoux, qu'on ne connaissait pas. Enfin, le grand public ne la connaissait pas, et elle a vraiment fait un bon travail.
Non, mais nous, ça fait un paquet d'années qu'on sait qu'elle a du talent, Elisabeth. Elisabeth. Benoît.
Ouais, les deux mêmes, mais j'ajouterais aussi Léa Salamé, parce que j'aime beaucoup son Stupéfiant, son magazine culturel de France 2, et elle s'est quand même imposée dans l'offre politique de France 2 forceps. Et c'est plutôt réussi. Et Caroline Roux, parce qu'on redoutait que le départ d'Yves Calvi soit fatal assez dans l'air, et en fait, elle se maintient, elle est très bonne à l'antenne, très à l'aise. Donc là aussi, c'est une bonne découverte, même si on la connaît depuis longtemps.
Journaliste de l'année, Laurent, selon vous ?
Moi, j'ai un binôme, je vais pas être très original, mais Jean-Pierre Pernaut et Gilles Boulot, parce que je trouve que Jean-Pierre Pernaut est installé depuis un nombre incalculable d'années et il continue à drainer des audiences impressionnantes et Gilles Boulot parce que je trouve que plus ça va, plus Garçon réussit à faire un vrai décryptage de l'actu le soir dans son 20h et je trouve que c'est voilà, je trouve ça intelligent. J'en avais un troisième si je peux, ça va peut-être être surprenant mais Victor Robert je trouve parce que voilà,
Canal.
Même si effectivement le grand journal a du mal à revenir à ce qu'il était, Victor
lui,
fait son boulot
sérieusement
et il a fermé les écoutilles sur toutes les critiques etc. et il continue à tracer son sillon. Ouais, et j'espère qu'un jour pour lui, qu'un jour ça va remonter.
Dans les journalistes de l'année, je me permettrai d'ajouter, je crois que vous serez d'accord avec moi, toute la rédac d'ITélé.
Oui.
Voilà, on pense évidemment à eux. Le magazine de l'année maintenant. Personne.
Moi j'ai beaucoup aimé Cellule de crise, c'est un magazine qui est apparu en janvier de l'année dernière, donc il y a pile un an, qui revenait sur les attentats contre Charlie Hebdo, l'hypercachère. Il y avait des reconstitutions en 3D, c'était très intéressant. C'était sur France 2, c'est David Pujadas. Il a refait deux numéros depuis, un numéro sur le Mali et un autre sur les attentats du 13 novembre. C'était passionnant, hyper bien fait, un énorme hyper travail d'enquête, de reconstitution, vraiment chapeau, très beau magazine.
Beau boulot. Dans les magazines, alors on change totalement de domaine, moi je donnerais deux petites palmes à Stupéfiant, effectivement, le magazine culturel de Léa Salamé, que je trouve formidable, et c'est plus classique, mais c'est très bien fait aussi, au magazine de Claire Chazal, qui s'appelle Entrée Libre, sur France 5. Franchement, c'est du beau boulot. Ouais,
Philippe, sur Stupéfiant, une petite remarque, une hérésie depuis 15 jours, le magazine est programmé sur France 2 à 23h45, après 3 épisodes de Chef. C'est vraiment du gâchis, parce que l'émission on est regardé que par 200 000 personnes, alors qu'il y avait des super sujets et encore un super entretien de Valérie Lemercier cette semaine. Allez le voir sur Plus, c'est vachement bien.
Quel est le coup médiatique de l'année? Coup, c'est OUP, selon vous?
Alors pour moi, c'est le transfert de Yann Barthès de Canal Plus à TMC. Le pari était très difficile parce que passer du Canal 4 au Canal 10 en gardant ses téléspectateurs, c'était compliqué. Et en plus de ça, Yann Barthès, il a réussi à en recruter de nouveaux.
Et vous n'avez pas cité l'auteur de ce coup, parce que Yann Barthès en est l'incarnation.
Oui,
on va
l'auteur
dire.
De ça.
C'est
Ara Aprikion. Ara Aprikion est le producteur de l'émission, Laurent Bon.
Coup médiatique de l'année, vous, Benoît, vous pensez à autre chose?
Oui, je pense à l'offensive de M6 sur le foot. On les a vus diffuser l'Euro avec succès, parce qu'ils ont décroché la finale. Alors ça, c'était au tirage au sort, mais ils ont décroché la finale, plus de 20 millions de téléspectateurs. Et c'est pas fini, parce qu'ils ont acheté cette année les droits des matchs des Bleus, les matchs amicaux, les matchs de qualification pour le Mondial, pour l'Euro. Donc ça, c'est un gros, gros coup d'M6 qui va porter ses fruits dans les 4 années à venir.
Après le coup médiatique de l'année, la série de l'année à la télé, selon vous?
Ah, moi, je suis fan de The Crown, je regarde ça en ce moment sur Netflix.
The Crown, la couronne.
Série sur Elisabeth II, sur le tout début de son mandat.
Moi aussi, Laurent, au bout de deux épisodes,
moi, je me suis endormi. Il faut regarder le 3 et le 4.
Mais c'est juste que
c'est lent, c'est tellement lent.
Bah, c'est ça.
On n'est pas d'accord.
Non, mais vous m'avez cassé.
Ça raconte la vie d'Elisabeth II d'Angleterre, c'est voilà. Ça.
Bon, ben, je vais me coucher.
Avec The Crown. Laurent, la série de l'année.
Moi, c'est un ensemble de séries qui est diffusé le samedi soir sur France 3 qui s'appelle Les Meurtras.
Ah oui. Meurtre à Saint-Malo, meurtre à Guérande.
Bah mine de rien, France 3 arrive quasiment tout le temps en tête des audiences samedi soir.
Et moi, ça m'endort. Hein,
On va terminer, tiens, vous savez quoi? C'est évidemment subjectif. Quelle est, selon vous, la chaîne télé de l'année 2016?
TMC.
Benoît.
TMC qui a fait donc le mercato du siècle avec Yann Barthès et surtout qui commence à battre C8 à la régulière. Donc c'est vraiment une révolution sur la TNT et c'est mérité.
Moi, BFM TV, je trouve que, encore une fois, la chaîne s'est imposée autour des grands événements de cette année.
Très solide.
Et voilà, ils ont été très nombreux. On sait que BFM TV était hyper inquiète par l'arrivée de LCI. On s'est rendu compte ces derniers mois qu'en fait, LCI et ITélé, pour les raisons qu'on connaît, ne faisaient pas le poids. C'est un leader indétrônable.
Laurent, la chaîne de télé, selon vous, 2016?
Moi, je penserais LCI parce que je trouve que la mutation qu'ils ont opérée est plutôt intéressante et ça commence à être une chaîne qu'on peut de nouveau...
Regardable.
Ouais, non, mais je veux dire, voilà, on peut se laisser... Je me laisse prendre... Je me laisse prendre facilement sur leurs émissions et je trouve que c'est plutôt bien fait et on sent que ça monte en puissance.
Bon, voilà, vous auriez noté qu'il y avait des avis assez divergents autour de cette table et c'est pas plus mal comme ça. Merci Laurent Marcy-Cartel, merci Benoît d'Aragon, Le Parisien, et Julien Belvert, Pure Média. À dimanche prochain.
Salut Philippe.
Vous écoutez RTL.